Et nous débutons par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une ce matin de l'importance du choix des mots. Plus de suspension ni de moratoire, mais une suppression de la hausse de la taxe carbone prévue l'an prochain. Emmanuel Macron a rappelé hier soir à son Premier ministre, au gouvernement et surtout aux Gilets jaunes, cette importance des mots fiscaux.
Alors que l'exécutif craint des morts et des violences, samedi prochain, l'Élysée appelle les corps intermédiaires au calme.
Et de son côté, l'ONU note que les émissions de CO2 ont augmenté pour la première fois depuis 7 ans cette année, plus 2,7% par rapport à 2017, comme un rappel à la réalité pour les États réunis à la COP24 en Pologne et un appel à la mobilisation des citoyens, disent les organisateurs de la marche pour le climat. Ils appellent les Français à battre le pavé ce samedi dans plus de 120 villes en France. Et en plein mouvement des Gilets jaunes, le prix du baril de pétrole va-t-il repartir à la hausse? C'est en tout cas ce qu'espèrent les producteurs de l'OPEP qui se réunissent à Vienne aujourd'hui.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, on va parler d'art, puisqu'il faut parler d'art malgré tout. Léonard de Vinci est-il devenu un enjeu diplomatique entre la France et l'Italie? On posera la question à Didier Rickner, il est directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art.
Le dimanche sur France Culture.
Quand la suspension se transforme en annulation pure et simple, l'Élysée a tranché hier soir. La hausse des taxes sur les carburants, initialement prévue au 1er janvier, suspendue ensuite mardi par Édouard Philippe, cette hausse est finalement annulée l'an prochain. Emmanuel Macron a clarifié hier soir les positions avancées par des membres du gouvernement. S'il n'est pas question de revenir sur la suppression de l'impôt sur la fortune, comme l'avait évoqué hier la secrétaire d'État Marlène Schiappa ou le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, la hausse de la taxe carbone est donc bel et bien annulée. Pas d'entourloupe, a expliqué dans la soirée le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. C'était lors d'un débat sur BFM TV.
Quels sont les meilleurs moyens pour lutter contre le dérèglement climatique? Il n'y a pas que la taxe dans la vie.
Parce que c'est plus cher au prix, il ne va pas moins polluer. Hein.
On met tout sur la table pendant les débats que nous avons proposés, les trois premiers mois de l'année. Ce n'est pas des choses pendant des années. Et ensuite, on tire les leçons de ce débat. D'accord. Comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Parce que le président, je peux vous dire, je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes, il m'a dit, les gens ont eu l'impression qu'il y avait une entourloupe. On leur disait, c'est une suspension, mais après, hop, ça reviendra après. Bah, je peux vous dire la même chose sur le gaz. Au 1er janvier, le prix du gaz va baisser de presque 2%. Et sur l'électricité, où il y avait aussi une inquiétude, hein, on n'en parlait pas au départ dans les Gilets jaunes, mais c'est devenu aussi un sujet. Parce qu'en effet, si on appliquait les modes de calcul habituels sur les prix de l'électricité, ils allaient augmenter fortement. On est en train de trouver un mécanisme pour que le prix soit stabilisé en 2019.
Le ministre de la Transition écologique François de Rugy, hier soir sur BFM TV. Une annulation pure et simple donc de la taxe carbone. De quoi alimenter un peu plus les débats cet après-midi au Sénat avec Édouard Philippe toujours en première ligne. Le Premier ministre espère dissuader les Gilets jaunes de venir manifester à Paris samedi. L'exécutif veut à tout prix éviter de nouveaux affrontements dans le pays. Et l'Élysée lance un appel au calme qu'Emmanuel Macron souhaiterait voir relayé par toutes les forces vives de la République, syndicats de salariés, organisations patronales et forces politiques, Yael Gauze.
Fini les distinctions entre gentils et méchants gilets jaunes, entre peste brune et manifestants raisonnables. À Paris, samedi, l'Élysée redoute l'arrivée de factieux, de putschistes, avec qui, moratoire ou pas, aucun dialogue n'est possible. Et l'angoisse au sommet de l'État, ce serait que tout cela finisse avec un mort pour une histoire de taxes. D'où l'attente formulée par le président en Conseil des ministres, que tous les corps intermédiaires relaient son appel au calme, partis politiques, syndicats, médias, comme en 2005 après les émeutes en banlieue. Car les informations qui remontent de Beauvau ne sont pas rassurantes. Paris pourrait voir converger des ultras armés venus pour casser et tuer, insiste l'Élysée, qui cherche à dissuader tout rassemblement de gilets jaunes dans la capitale. Les sondages aussi restent préoccupants. 37% de Français interrogés qui disent comprendre les violences, selon l'Institut Elab, d'où cet appel au calme, transpartisan et républicain. Emmanuel Macron espère une clarification de la part de ses adversaires, Laurent Wauquiez en tête, accusé à l'Élysée de jouer double jeu en surfant sur le mouvement des gilets jaunes.
Et pour répondre à l'appel au calme lancé donc par Emmanuel Macron hier, syndicats et organisations patronales vont se rencontrer aujourd'hui, les uns au siège de la CFDT, les autres à celui du MEDEF à Paris. De leur côté, le syndicat Sudrail et la CGT du groupe Lafarge-Holcim ont appelé hier à manifester samedi aux côtés des Gilets jaunes dans toute la France. Des lycéens sont aujourd'hui à l'hôpital à cause des violences de policiers. C'est ce qu'a dénoncé hier Louis Boyard à la tête du syndicat lycéen UNL. Après avoir été reçu hier au cabinet de Jean-Michel Blanquer, deux élèves ont été blessés par un tir de flashball lors d'affrontements avec la police près d'Orléans et à Garges-lès-Gonesse en région parisienne. Si le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a mis en garde une fois de plus hier soir contre les incitations à manifester à destination des lycéens, affirmant qu'elles sont une incitation à courir un danger grave, les syndicats lycéens comme la FIDEL appellent les lycéens à maintenir la pression avant d'intensifier le mouvement aujourd'hui par une mobilisation générale. Eux ne veulent pas renoncer à manifester samedi. Les organisateurs de la marche pour le climat prévue dans quelques 120 villes de France, dont Paris, ne veulent pas annuler donc leur manifestation, comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Car l'urgence, disent-ils, c'est le réchauffement climatique. Les émissions de CO2 des énergies fossiles, première cause du réchauffement sur la planète, ont connu cette année une hausse inédite depuis 7 ans, 2,7% de plus par rapport à 2017, comme un rappel à la réalité pour les États réunis à la COP24 en Pologne et un appel à la mobilisation des citoyens pour battre le pavé ce samedi donc, expliquent les organisateurs de cette marche pour le climat que vous avez rencontré, Bastien Brun.
On a peur du réchauffement, pas de manifester, disent les associations qui tendent la main aux Gilets jaunes. Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque France.
On veut surtout pas reporter cette manifestation. Pour nous, c'est une même colère aujourd'hui qui est exprimée à travers d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'on va exprimer samedi, c'est-à-dire une colère contre un gouvernement qui ne répond ni aux fins du mois, ni à la fin du monde, qui exonère les multinationales et les plus riches de tout effort et même qui agit en faveur de leurs intérêts, qui imposent les classes moyennes et précaires, au lieu de mener une vraie politique de partage des richesses, mais aussi de réponse à l'urgence climatique.
Cyril Dion, le co-réalisateur du film Demain, qui propose des solutions pour sauver la planète, ne s'estime pas si éloigné des revendications des Gilets jaunes.
C'est un appel à s'unir, dire on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a quelques éléments sur lesquels on peut se rejoindre. Sur le fait qu'on a besoin de taxer les grandes entreprises les plus polluantes, pour financer la transition écologique, je pense qu'on peut s'entendre. Sur le fait qu'on pourrait avoir une taxe sur les transactions financières très ambitieuse qui permette de redistribuer la richesse et de faire en sorte que chacun s'en sorte. Et sur le fait qu'on a besoin de transformer nos modalités démocratiques, je pense que là-dessus on peut s'entendre. Donc on a une occasion un peu historique là, le 8, de marcher ensemble pacifiquement et de montrer un visage de mouvement citoyen qui émerge.
Pour la marche parisienne, les organisateurs ont rendez-vous à la préfecture aujourd'hui afin de discuter du parcours.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. En plein mouvement des Gilets jaunes, le prix du baril de pétrole va-t-il repartir à la hausse?
C'est en tout cas ce qu'espèrent les producteurs de l'OPEP qui se réunissent à Vienne aujourd'hui. Ils veulent trouver un accord pour limiter leurs extractions, ce qui mécaniquement ferait remonter les prix de l'or noir qui ont baissé de plus de 30% ces deux derniers mois. Baisser la production irait à l'encontre du souhait de Donald Trump. Le monde n'a pas besoin de pétrole plus cher, a tweeté le président des États-Unis. Donald Trump qui pourrait peser à distance sur son allié saoudien dans un autre dossier, celui de la guerre au Yémen, avec l'ouverture aujourd'hui des pourparlers de paix en Suède. Les autorités yéménites, soutenues par l'Arabie saoudite sunnite, discuteront via l'intermédiaire de l'ONU avec les rebelles houthis, appuyés eux par l'Iran chiite. Ce sont les premières discussions entre les deux parties depuis 2 ans pour tenter de mettre fin à 4 années de guerre qui ont fait au moins 10 000 morts et conduit 14 millions de personnes au bord de la famine. Une catastrophe humanitaire qui pourrait prendre fin, espère Sadek El-Sar, à la tête de l'association Salam for Yemen, paix pour le Yémen, car les pressions propices à un règlement de la guerre se multiplient, dit-il. Sadek El-Sar note des avancées notables ces derniers jours.
La première, c'est la permission de la coalition d'évacuer le blessé Houthi de l'aéroport de Sanaa, qui est fermé depuis presque 3 ans, et puis aussi l'échange des prisonniers. Mais surtout, c'est l'appui ou le forcing de la part des États-Unis, l'allié fort de l'Arabie Saoudite, et on a vu les votes des congressmen pour l'arrêt de l'intervention ou l'aide américaine à la coalition saoudienne au Yémen.
Est-ce qu'une solution solution politique peut être envisagée, ou est-ce qu'on va vers plutôt une solution des questions humanitaires, comme l'ouverture des ports, par exemple, pour l'acheminement de l'aide?
On va, à mon avis, vers un arrêt de la guerre, parce que c'est à cause de la guerre qu'il y a cette catastrophe humanitaire, et puis aussi vers une solution politique, parce que les États-Unis ont peur pour leur allié fort, qui est l'Arabie Saoudite, qui est en train de perdre depuis 4 ans humainement, et qui aussi ils n'ont pas gagné un seul centimètre de ce qu'ils voulaient. Au contraire, il n'y a qu'une perte énorme de civils.
Sadak El-Sahar, président de l'association Salam for Yemen, joint par Nabila Hamel. Il y a un an, jour pour jour, Donald Trump décidait de bouleverser le cours des choses au Proche-Orient. Ce jour-là, contre l'avis de la communauté internationale, le président des États-Unis reconnaissait Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Un cadeau inespéré pour les Israéliens, pour les Palestiniens. Cela a marqué le début d'une longue descente aux enfers, faisant s'éloigner un peu plus loin l'espoir d'une solution de paix négociée. Aussi Étienne Monin.
Riyad Moussa a la double nationalité. Il est à la fois palestinien et américain. C'est un chef d'entreprise mal à l'aise il y a un an devant sa télé aux États-Unis quand Donald Trump bouleverse l'ordre des choses.
J'étais chez moi, on regardait tous CNN et beaucoup de gens étaient tristes. Ça a été une journée très triste.
En une année pour les institutions palestiniennes, l'impact est à la fois financier et diplomatique. L'Amérique supprime un demi-milliard de dollars. Elle retire Jérusalem et le statut des réfugiés de la table des négociations. La Palestine est coincée entre deux époques, dit le jeune ministre de l'Éducation, Sabri Saïdam.
La solution à deux États n'existe plus. La solution à un État n'est pas autorisée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le projet politique pour toute la société palestinienne? Je crois que les choses n'ont jamais été aussi sombres qu'aujourd'hui.
Le président Mahmoud Abbas a coupé les ponts avec l'administration Trump, cette rupture est la seule réponse institutionnelle. Les dirigeants palestiniens semblent tétanisés face à cette politique qui, en Israël, encourage les nationalistes.
À suivre dans le journal de 7h30, le troisième jour de débat au Parlement britannique sur le Brexit, il est de moins en moins probable que la Première ministre Theresa May arrive à faire valider par les députés l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles. Correspondance à Londres à suivre donc dans le journal de 7h30. Le temps de ce jeudi 6 décembre, ensoleillé près de la Méditerranée, gris partout ailleurs avec des averses fréquentes dans l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 6 et 11 degrés en général, un peu plus frais sur la façade est avec 3 à 7 degrés. Cet après-midi, comptez de 16 à 18 degrés près de la Méditerranée, 13 à 16 dans le sud-ouest, 11 à 15 degrés partout ailleurs.